Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Je vous emmène aujourd'hui aux confins du système solaire vers la planète Uranus. Cette planète reste encore une des grandes inconnues de notre système solaire. Elle a été découverte relativement tardivement par William Herschel et depuis, force est de constater qu'elle recèle encore bien des mystères. Comme par exemple son axe de rotation, qui est parallèle à son orbite. On a l'impression que Uranus roule sur son orbite. Ou encore son champ magnétique de sa planète, qui est très mal connu, qui semble variable. Revenons d'abord sur l'histoire de la découverte d'Uranus. Contrairement aux autres planètes ayant des orbites plus proches du Soleil, comme Mercure, Vénus, Mars, Jupiter ou encore Saturne, Uranus n'est pas découverte dans l'Antiquité. Du fait de son éloignement au Soleil, elle est observée à de nombreuses occasions, mais elle est considérée comme une simple étoile jusqu'au XVIIIe siècle. En raison de son très faible éclat, en effet sa magnitude apparente est à la limite de la visibilité à l'œil nu, mais aussi en raison de son très faible déplacement, son déplacement très lent dans le ciel nocturne. La première observation connue pourrait être celle d'Hipparque en 128 avant Jésus-Christ, qui aurait pu l'enregistrer comme une étoile fixe dans son catalogue d'étoiles. En effet, un astérisme cité dans l'Almageste de Claude Ptolémée qui reprend les travaux d'Hipparque ne peut être résolu que par la présence d'Uranus à cette époque-là. Par ailleurs, Uranus, au mois d'avril de 128 avant Jésus-Christ, était dans des conditions d'observation très favorables. Elle était proche de la Terre avec une magnitude de 5,4 et elle était assez haut dans le ciel, à 33 degrés du zénith. Les plus anciennes mentions prouvées de Uranus datent de 1690, lorsque John Flamsteed l'observe au moins 6 fois et la catalogue en tant qu'étoile, du nom de 34 Tauri. L'astronome français Pierre-Charles Lemonnier observe aussi Uranus une douzaine de fois entre 1750 et 1769, dont 4 nuits consécutives. John Bavis a peut-être également observé Uranus en 1738. On a des indices concordant avec une observation, mais aucune preuve définitive. Mais tous ces astronomes ne réalisent pas ce qu'ils regardent. Il faudra attendre la fin du XVIIIe siècle et William Herschel. William Herschel, c'est un musicien anglais qui pratique l'astronomie en amateur. N'ayant pas les moyens financiers d'acheter un télescope, il polie lui-même un miroir pour construire le sien. Il découvre la planète le 13 mars 1781, lors d'une recherche systématique d'étoiles à l'aide de son télescope qu'il effectue avec sa sœur Caroline depuis leur jardin au 19 King Street à Bath, dans le Somerset, en Angleterre. Cette maison est aujourd'hui devenue le musée d'astronomie Herschel. Alors plus précisément, Herschel avait entrepris le catalogage d'étoiles selon leur magnitude. À la frontière des constellations entre les Gémeaux et les Taureaux, Herschel remarque au milieu des étoiles fixes une petite tache. Il change successivement d'oculaire, il augmente progressivement le grossissement. Ça fait augmenter la taille de l'objet à chaque fois, tandis que les étoiles autour très éloignées ne varient pas de taille. Elles restent des simples points brillants. Ainsi, il ne peut pas s'agir d'une étoile. Il écrit donc dans son journal, le 13 mars, « Dans le quartile près de Gamma Tauri se trouve un objet curieux, soit une nébuleuse ou peut-être une comète. » Il note la position de l'astre, et puis quelques jours après reprend son observation. « J'ai observé la comète ou la nébuleuse et trouvé qu'il s'agissait d'une comète, car elle avait changé de place. » Il décide alors de prévenir la communauté scientifique de sa découverte, et envoie un courrier avec tous les détails de son observation, de sa comète donc, au directeur de l'observatoire d'Oxford, Thomas Hornsby. Il informe également l'astronomeur royal, Neville Maskelyne, de l'observatoire de Greenwich. Il reçoit une réponse déconcertée de sa part le 23 avril 1781. Je ne sais pas comment l'appeler, il est aussi probable que ce soit une planète régulière se déplaçant sur une orbite presque circulaire par rapport au Soleil qu'une comète se déplaçant sur une ellipse très excentrique. Je n'ai pas encore vu sa chevelure ni sa queue. Celui-ci ne pouvant pas trancher, il diffuse la nouvelle à d'autres scientifiques et conseille à Herschel d'écrire à la Royal Society. Le 26 avril 1781, lorsque William Herschel présente sa découverte à la Royal Society, il continue d'affirmer qu'il a trouvé une comète. Mais il la compare aussi implicitement à une planète. Bien que Herschel continue par précaution d'appeler ce nouvel objet une comète, d'autres astronomes commencent déjà à soupçonner sa véritable nature. L'astronome finno-suédois Andrés Lexell, travaillant en Russie, est le premier à calculer l'orbite du nouvel objet en appliquant le modèle d'une planète. Son orbite presque circulaire correspondant au modèle appliqué l'amène à conclure qu'il s'agit bien d'une planète plutôt qu'une comète, car il estime sa distance à 18 fois la distance Terre-Soleil, et aucune comète ayant un périhélie supérieur à 4 fois la distance Terre-Soleil n'avait jamais été observée. L'astronome berlinois Johann Erlet Bode décrit la découverte d'Herschel comme une étoile comme une étoile en mouvement qui peut être considérée comme un objet semblable à une planète inconnue jusqu'à présent, circulant au-delà de l'orbite de Saturne. Bode conclut également que son orbite quasi-circulaire ressemble plus à celle d'une planète que celle d'une comète. L'astronome François-Charles Messier remarque aussi qu'avec son aspect de disque, elle ressemble plus à Jupiter qu'aux 18 autres comètes qu'il avait observées auparavant. L'objet est ainsi rapidement, unanimement accepté en tant que planète. En 1783, Herschel lui-même le reconnaît auprès du président de la Royal Society, Joseph Banks. Je cite « D'après l'observation des astronomes les plus éminents d'Europe, il semble que la nouvelle étoile que j'ai eu l'honneur de leur signaler en mars 1781 est une planète primaire de notre système solaire. » Le roi d'Angleterre, George III, récompense Herschel de sa découverte en lui attribuant une rente annuelle de 200 livres, soit à peu près 24 000 livres modernes, à condition qu'il s'installe à Windsor afin que la famille royale puisse regarder à travers ses télescopes. Cette pension permet à Herschel d'arrêter son travail de musicien et de se consacrer pleinement à sa passion pour l'astronomie. Sa sœur Caroline, elle aussi, reçoit pour sa part 50 livres. Elle devient ainsi la première femme rétribuée pour un travail scientifique. Depuis la découverte d'Herschel, les observations d'Uranus ont principalement été faites au télescope, mais également grâce à la sonde Voyager 2 qui a survolé la planète Uranus en 1988. Grâce à cette sonde qui depuis est sortie de notre système solaire, nous avons pu avoir des informations sur le champ magnétique de l'astre et sur 11 nouveaux satellites et 2 anneaux. Depuis, aucune visite n'a eu lieu dans cette banlieue de notre système solaire. Le VLT, le Very Large Telescope, qui est situé dans l'Observatoire européen austral, au Chili, est l'équipement phare de l'astronomie européenne en ce début de troisième millénaire. Il s'agit de l'installation observant dans le visible le plus moderne du monde. Le VLT se compose de 4 télescopes principaux, ayant des miroirs primaires de 8,2 mètres de diamètre, et 4 télescopes auxiliaires mobiles, qui ont des miroirs de 1,8 mètre. Tous ces télescopes peuvent fonctionner ensemble pour former un interféromètre géant, le VLTI, permettant aux astronomes de discerner des détails avec une précision jusqu'à 25 fois plus importante qu'avec les télescopes utilisés séparément. Le VLT a permis de résoudre Uranus, d'observer des nuages et aussi ses vents. Un nouveau voyage se profile vers Uranus à l'horizon 2030. La NASA pourrait envoyer un orbiteur associé à une sonde de rentrée atmosphérique. Le Uranus Orbiter and Probe est un programme qui rassemble des scientifiques de tout pays. En effet, la sonde de rentrée atmosphérique portera des instruments de mesure français. Le but est d'observer et de mesurer toute la planète, aussi bien son atmosphère, sa relation avec le Soleil aussi. Pour ça, elle va embarquer plusieurs instruments, spectroscope, magnétomètre, thermomètre. Le voyage durera 13 ans, auquel il faut ajouter 20 ans de préparation pour une sonde kamikaze qui restera 6 minutes dans l'atmosphère d'Uranus avant d'être écrasée par la pression. On appelle ça une mission cathédrale, c'est-à-dire que ceux qui ont jeté les bases de ce programme ne seront pas ceux qui pourront traiter les données recueillies. D'ailleurs, ceux-là ne sont peut-être pas encore nés. Comme au temps des cathédrales, ceux qui posent les fondations ne verront pas l'édifice une fois terminé. Dans cette mission, la distance est évidemment un paramètre important. Uranus est en effet à 19 unités astronomiques du Soleil. Pour mémoire, l'unité astronomique, c'est la distance entre le Soleil et la Terre. Depuis Uranus, le Soleil est donc à peu près équivalent à une grosse étoile. Pour parcourir ce trajet, il faudra déjà propulser le module de 5 tonnes pour l'arracher à l'attraction terrestre, puis ensuite utiliser d'autres planètes comme Jupiter ou Vénus pour utiliser l'assistance gravitationnelle, ce qu'on appelle la fronde gravitationnelle. En passant près d'une planète, sa gravité va modifier en direction et en vitesse la trajectoire de notre engin spatial dans l'espace pour l'aider dans son voyage. Les scientifiques espèrent que cette mission les aidera à percer les mystères d'Uranus et notamment son obliquité. Toutes les autres planètes du système solaire ont un axe de rotation qui est assez proche de la perpendiculaire avec leur orbite. On parle d'obliquité pour désigner cet angle que fait l'axe de rotation avec cette perpendiculaire. Pour Mercure et Jupiter, cet angle est presque nul. Pour la Terre, Mars, Saturne et Neptune, l'angle est autour de 25 degrés. Alors il y a le cas particulier de Vénus qui tourne dans l'autre sens par rapport aux planètes, ce qui pourrait lui donner une obliquité de presque 180 degrés. Mais Uranus, elle, a une obliquité de 98 degrés. L'obliquité raconte l'histoire de notre système solaire. On a parfois tenté d'expliquer cette anomalie par un phénomène cataclysmique, en l'occurrence une collision avec une probable protoplanète au début de la formation du système solaire. Ce gigantesque impact aurait fait basculer Uranus. Mais cette théorie ne s'accorde pas avec la présence actuelle de nombreux satellites orbitant dans le plan équatorial de la planète. Si la planète avait basculé de cette manière, les satellites n'auraient pas suivi. Il faut donc envisager un basculement progressif de l'ensemble du système d'Uranus, la planète, les satellites. Une hypothèse que viennent de proposer deux astronomes de l'Observatoire de Paris en effectuant des milliers de simulations numériques de la migration des planètes géantes lors de leur formation et en ajoutant un nouveau satellite au voisinage d'Uranus, ils ont démontré que ce corps aurait pu accélérer le mouvement de précession qu'effectue l'axe de rotation de la planète, comme sur la Terre, au point de lui conférer une vitesse comparable à la précession de son orbite, entraînant alors un basculement de l'ensemble du système. Mais Uranus n'a pas de gros satellites, elle a 27 satellites, dont les noms sont tous des personnages d'œuvres de Shakespeare d'ailleurs, Titiana, Oberon, Ariel, etc. Alors, est-ce qu'il y avait un très gros satellite qui est parti ou est-ce qu'il y a éventuellement une rencontre entre deux planètes géantes qui aurait pu éjecter le satellite ? Alors, une autre solution, c'est que les satellites migrent. Sur Saturne, par exemple, ils s'éloignent. En raison de l'élargissement des orbites, l'axe de Saturne commence à basculer. Et ça aurait pu aussi arriver à Uranus. En migrant, le satellite accélère la rotation et arrive à la résonance. C'est là que l'axe de rotation va commencer à basculer. L'orbite va se déformer et le satellite peut entrer en collision avec sa propre planète. Alors pour que ça tienne, il faudrait au minimum 4 fois la masse des satellites actuels, donc probablement un très gros satellite de la taille à peu près de Ganymède. Un impact pourrait aussi expliquer le champ magnétique d'Uranus et la composition d'Uranus. Uranus possède de la matière, sans doute en partie ionisée, c'est-à-dire les électrons ont été arrachés de leurs atomes, qui provoque des courants électriques, donc un champ magnétique. Il a été mesuré pendant quelques heures grâce à Voyager 2. Il y a des aurores polaires, par exemple, sur Uranus, donc c'est l'interaction entre ce champ magnétique et les particules solaires. L'aurore polaire nous montre que quand le vent solaire arrive dessus, comme elle tourne très vite, ça crée un univers de plasma qui est très dynamique et très imprévisible. Et la particularité d'être décalé par rapport à l'axe polaire, en fait, il est incliné à 59 degrés par rapport à l'axe de rotation de la planète. Et bien, c'est la future sonde qui va être envoyée vers Uranus qui va pouvoir étudier ce champ magnétique si particulier et peut-être nous donner des explications sur l'origine de cet axe de rotation si particulier.